Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, nous sommes en guerre. Non, je ne vous parle pas de cette guerre où l'on voit des avions de chasse bombarder des bédouins sur Dodan, où l'on canarde de méchants islamistes depuis des drones. Non, je parle d'une autre guerre. Beaucoup plus corps à corps, autrement plus périlleuse. Une guerre qui fait des victimes parmi nous. Une guerre qui peut nous coûter notre vie et même notre vie éternelle. Romains, chapitre 8, verset 13. En effet, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les agissements du corps, vous vivrez. Notre verset se trouve au chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Laissez-moi résumer l'enseignement des chapitres qui précèdent en utilisant une parabole. C'est la tempête. Un homme a pris son bateau malgré les alertes météo. Il a bravé le mauvais temps et la houle. Il a cru qu'il pouvait y arriver. Il a sous-estimé les éléments déchaînés. Et puis, tout d'un coup, une vague l'a emporté. Il s'est retrouvé au milieu des flots, emporté au large. Il a le visage dans l'eau. Il est à moitié noyé déjà. C'est comme s'il était mort. Les gardes-côtes l'ont vu, mais ils ne peuvent rien faire. C'est trop dangereux, ils pourraient y laisser leur vie eux-mêmes. Il hausse les épaules. On lui avait bien dit qu'il ne devait pas y aller. Tant pis pour lui. Et il se demande déjà comment ils vont récupérer le cadavre. Mais tout à coup, un autre homme qui n'était pas obligé d'intervenir. Il décide d'y aller. Il prend son bateau, il tente l'impossible, il brave les vagues, le vent, la pluie torrentielle. Il avance péniblement, mais finalement, il y arrive. Et avec un effort surhumain, il hisse l'autre dans son bateau. Et il lui fait le bouche à bouche. Et quand son souffle descend dans les poumons de l'homme qui se noyait, il est rempli d'air. Il le ramène à la vie. Voilà ce qui est arrivé jusque-là dans Romains. Dans le chapitre précédent, on était en train de nous noyer dans le péché. On était laissé pour mort, reconnu coupable et justement condamné, avec comme seule perspective l'éternité, loin de Dieu, en enfer. Paul s'écrit « Malheureux que je suis, qui me sauvera de ce corps de mort ?» Romains 7, verset 25, grâce à Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi, Jésus nous a sauvés sur la croix. Maintenant, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il s'est penché sur nous, et chose incroyable, il s'est abaissé à nous et nous a insufflé son Esprit Saint qui donne la vie. Mes frères et sœurs, ne vous y trompez pas, nous sommes encore en danger, car ce bateau est encore au milieu de cette mer de méchanceté. Nous ne sommes pas encore arrivés à la maison. Qu'est-ce qu'on serait bien à la maison? La gloire éternelle, la nouvelle création, voir Jésus face à face. Mais notre problème, c'est que le péché n'a pas encore dit son dernier mot. La chair bouge encore, elle lutte encore avec nous. Vous le savez bien. La fierté, la jalousie, les animosités, la mauvaise langue, ces choses qui nous tiraillent, qui chuchotent dans nos oreilles, font naître des désirs interdits. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Donc je suis sain et sauf, je suis dans le bateau, l'esprit m'a été insufflé dans les poumons. Mais j'ose à peine le dire, quelque chose en moi aimerait encore sauter par-dessus bord et plonger de nouveau dans ce tourbillon de convoitise et de méchanceté. Mais Paul nous avertit. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les agissements du corps, vous vivrez. Vous voulez vivre ? Eh bien, tuez, nous semble dire ce verset. Si vous la laissez vivre, la chair, elle aura votre peau. Mais si vous voulez vivre, il va falloir l'achever. Toi ou la chair, il faut choisir. Il n'y aura qu'un seul survivant. Ce sera toi ou elle. Qu'est-ce que la chair ? La chair, c'est ce poison moral en chacun de nous. C'est ce qui fait à dire à l'apôtre Paul lui-même, quelques versets avant ce passage, « Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je veux, mais ce que je déteste. » En effet, je ne fais pas le bien que je veux faire, mais le mal que je ne veux pas, voilà ce que je fais. C'est ce pli que notre cœur a pris, cette rébellion contre Dieu. Si vous vous observez un peu, vous allez le découvrir, ce monstre en vous qui vous grignote de l'intérieur. Si vous ne le sentez pas, alors je peux dire que vous êtes très différent de moi. Romains 8, verset 7. La pensée de la chair est inimitié envers Dieu. C'est là le cœur du problème, cette hostilité envers Dieu. Hommes et femmes déchus, nous avons tous en nous quelque chose qui est Dieu. Quel est le problème alors? Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Voilà le problème. La chair, elle nous tue. John Owen, le grand puritain, a encore condensé ce constat en disant « Tuez le péché, ou il vous tuera. » C'est une grande vérité biblique que beaucoup d'entre nous avons à redécouvrir. On s'est un peu endormi face au péché. On s'est assoupi. Mais je dois vous dire, chers frères et sœurs, que nous ne pouvons pas rester les bras croisés face au péché. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous ne pouvons pas dire dans la vie chrétienne, « Oh, ne nous excitons pas, Dieu s'occupera du péché. » Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire, « Écoute, je ne peux pas tuer, c'est pas mon truc. » Non, regardez le verset 13. « Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. » Et ne croyez pas que c'est une parole qui s'adresse uniquement aux non-croyants. Non, Paul parlait des gens qui écoutent la lecture de sa lettre dans l'église de Rome. Des gens qui considèrent comme ses frères, comme il le dit au verset 12. Oui. Il parle à des gens qui se considèrent comme chrétiens. Et la menace pour eux aussi est réelle. Et l'ordre qui nous est donné, permettez-moi de vous le dire, c'est aux armes. L'enjeu est de taille, ce sont vos âmes. Et tant que vous ne voyez pas ça, vous allez probablement jouer au bon petit chrétien, comme tant de gens le font à chaque Noël, quand on va à la messe et on fait un peu dans les bons sentiments. Mais les bons sentiments ne vont pas vous sauver du danger. Paul nous fait comprendre que nous devons développer les instincts des gens qui vivent en temps de guerre. Cette gravité et cette vigilance de tous les instants de ceux qui savent que le danger rôde en eux. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle, à l'idolâtrie, à l'adultère, les hommes qui couchent avec des hommes, les gens cupides, les ivrognes, les insulteurs ou les rapaces n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tous ces fruits de la chair vous barrent la route du ciel. Alors, si vous voulez y aller au ciel, un examen s'impose. Est-ce que j'ai laissé ces choses s'installer en moi? L'inconduite sexuelle, ça vous connaît? danger de mort. Quelqu'un parmi nous ici vit-il dans l'adultère? Statistiquement parlant, c'est probable. Et alors je dois te prévenir, si tu n'arrêtes pas, il n'y aura pas de place pour toi dans le royaume. Et ce n'est pas parce que tu auras été un fidèle membre de l'église baptiste tous les jours, tous les dimanches, au culte, que tu passeras. Si tu veux vivre, tu dois mettre un terme à cette relation aujourd'hui même. Ne tarde pas, il en va de ta vie éternelle. Proverbe 5, 3, les lèvres de la femme de l'autre dispensent des paroles ruisselant de miel, et son palais est plus onctueux que l'huile, mais après, elle est amère comme l'absinthe, tranchante comme une épée à double tranchant. Ses pieds descendent vers la mort. C'est au séjour des morts que ses pas conduisent. Un frère ici est-il attiré sexuellement par les hommes? Peut-être bien. Mais je dois te prévenir, si tu mets en pratique cette pulsion, tu risques d'y laisser ta peau, spirituellement parlant. Quelqu'un ici est-il avide, cupide? Danger de mort aussi. Je ne vais pas vous faire toute la liste, vous l'avez compris. Et en plus, cette liste risque de ne pas être complète. Si vous laissez la chair prospérer en vous, si vous pratiquez ces choses que Dieu interdit, si vous vous installez là-dedans, vous êtes en train de vous suicider spirituellement. Que personne n'en doute, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Où en êtes-vous? Est-ce que le diable a réussi à vous faire somnoler? La Bible nous parle souvent du diable. Elle nous dit que ceux qui pensent qu'il n'existe pas sont bien naïfs. Est-ce qu'il a réussi à vous percer, à vous faire baisser la garde, à vous doter d'une mentalité de temps de paix? Si oui, il est grand temps de vous réveiller. Car Paul ne laisse aucun doute. Nous sommes en guerre et nous sommes appelés à la violence, à nous faire violence. Et au fond, ce n'est guère une surprise. Écoutez les paroles de Jésus lui-même à ce sujet. Matthieu 11, verset 12. « Depuis les jours de Jean le baptiseur et jusqu'à présent, le royaume des cieux se ferait son chemin avec violence et ce sont ceux qui usent de violence qui s'en emparent. » Vous voulez entrer dans le royaume des cieux? Il faudra devenir violent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Voyez-vous, ce n'est pas un jeu. Si vous voulez aller au ciel, ne jouez pas. Ne jouez pas à l'église, ne jouez pas au christianisme. C'est très sérieux. De grâce, ne jouez pas. De grâce, devenez violent. Mais qu'est-ce que ça veut dire, au juste? S'emparer par la violence du royaume des cieux. Eh bien, écoutez encore Jésus. Tes paroles célèbres, choquantes. Marc 9, verset 43. Si ta main te fait chuter, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir tes deux mains et d'aller en enfer, dans le feu qui s'éteint pas. Si ton pied te fait chuter, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie en boitant que d'avoir tes deux pieds et d'être jeté en enfer. Et si ton œil te fait chuter, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'avoir deux yeux et d'être jeté en enfer où le ver ne meurt jamais et où le feu ne s'éteint jamais. Chers amis, nous sommes en guerre. Et en temps de guerre, vous savez ce qu'on fait des traîtres? On les exécute. Si ta main est un Judas, tue-la. Si ton pied est un Judas, tue-le. Arrête de faire la paix avec tes yeux, tes mains, tes pieds, ta langue, les membres de ton corps, tout ce qui te fait chuter. Non, tuez-les. Voyez-vous à quel point c'est violent? Quelle guerre sans merci nous sommes appelés à mener contre le péché? C'est ce que nous devons faire si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu. Vous voulez entrer dans la vie? Alors encore une fois, devenez violent. Quelqu'un me dira peut-être, oh mon cher Olivier, tu pousses un peu le bouchon. Tu mets en doute mon salut. Moi j'ai l'assurance du salut. C'est une très belle chose d'avoir cette assurance. Je vous félicite. Ceci étant dit, on en voit dans l'Écriture qui ont l'assurance et à qui Jésus dit, je ne vous connais pas. Mais ne dit-on pas, une fois sauvé, toujours sauvé? Ben oui, je suis d'accord. Je ne me permettrai pas de douter de votre salut, d'ailleurs. Mais si vous êtes réellement sauvé, eh bien, prouvez-le. Prouvez-le par une vie selon l'Esprit, par les fruits de l'Esprit, en vous battant avec le péché jusqu'au bout, en étant violent à son égard et en persévérant. Si tu vis de cette manière-là, tu confirmes que l'Esprit est en toi. Mais si tu t'installes dans le péché, si tu le laisses s'enraciner en toi, je ne donne pas cher de ton salut. Un vrai chrétien est un combattant. Qu'est-ce qu'il t'a dit ce matin, le prédicateur chéri? Il m'a dit de devenir un homme violent. Il m'a dit de devenir une femme violente. Coupe ta main, coupe ton pied. Mais si Jésus choisit cette image archi-violente, c'est que le combat contre le péché doit être sans merci. Deux précisions néanmoins. Premièrement, ne me comprenez pas de travers, ce n'est pas une violence contre d'autres personnes. Non, non, non. Je ne vous dis pas de devenir des djihadistes qui se font exploser. Ce n'est pas la violence contre les athées, ou contre les musulmans, ou les hindous, ou les laïcars, ou contre ton mari, ou ta femme, ou ta famille, ou contre les homos, ou qui sais-je encore. Non, ce n'est pas une violence dirigée contre eux. C'est une violence dirigée contre la chair, contre quelque chose qui est en vous et qui, justement, a le potentiel de faire de vous des gens violents envers tous ces gens-là. Cette violence qui m'est demandée, elle est dirigée contre ma chair. Je dois assassiner ma propre convoitise, mon orgueil, mon égocentrisme, mon envie de gloire, mon désir d'être bien vu, mon envie de confort et de facilité. Je dois les tuer sans ménagement. On ne fait pas de prisonniers, on exécute. Deuxièmement, je ne suis pas en train de dire non plus que vous arriverez à complètement tuer la bête. Je ne le crois pas. Même lorsque nous nous engageons dans le combat, nous allons encore tomber. Ce n'est pas glorieux, mais ce n'est pas la fin du monde non plus. Ce qui est important, c'est de se relever et de reprendre le combat, et de jamais cesser ce combat. Ce qui est décisif, ce n'est pas que nous venions complètement au bout de la chair, mais que nous luttions jusqu'au bout. Tel un boxeur qui a pris un violent coup. Il se trouve par terre, l'arbitre compte, il faut qu'il remonte et qu'il se relève. Quand le Seigneur revient, il veut vous voir à l'œuvre, dans le ring, dans l'arène. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les agissements du corps, vous vivrez. Et curieusement, c'est là le fondement de l'amour chrétien. Car nous tuons le péché en nous pour pouvoir donner aux autres. Tant que nous sommes dominés par la chair, nous n'avons pas le temps de servir les autres, parce que nous servons la chair. Votre esprit est rempli de votre orgueil, de votre convoitise, de votre égocentrisme. Vous devez servir votre vaine gloire, vous devez servir votre confort, que sais-je encore. Vous n'avez pas le temps de servir les autres. Vous vous servez vous-même et la chair. L'amour chrétien est basé sur cette violence envers moi-même, envers la chair. Nous devons la combattre, cette chair. Il faut l'exproprier, il faut l'expulser pour faire de la place pour Dieu et les hommes autour de nous. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les agissements du corps, vous vivrez. Il y a un mois et demi à peu près, à la Saint-Sylvestre, beaucoup de gens en France et Navarre ont fait des résolutions, n'est-ce pas ? Et souvent, c'était une forme de déclaration de guerre contre leur corps. Des gens ont pris la résolution de suivre un régime, d'arrêter de fumer, de faire du sport. Ils courront des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Ils arrêteront de boire. Ils lutteront avec leur dépendance. Alors, quelle différence pour toi en tant que chrétien ? Quelle est la différence dans ton combat ? En effet, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les agissements du corps, vous vivrez. Par l'esprit, ce que le monde n'a pas quand il se lance dans ses résolutions contre les agissements du corps, c'est l'esprit de Dieu. Le combat du monde contre les agissements du corps, il est un peu comme le combat de Sisyphe, vous savez, ce personnage de la mythologie grecque, condamné par les dieux à rouler une grosse pierre vers le sommet d'une montagne. Et il pousse, et il se fatigue, et il pousse, il roule, et le sommet s'approche, il y est presque. Quand tout d'un coup, le bloc se libère et boum, badaboum, redescend. Et le pauvre Sisyphe, il doit redescendre et recommencer, et recommencer. Et recommencer. C'est ce qui arrive en général aux résolutions de fin d'année. Les gens n'ont aucune chance contre la chair. Mais toi, chrétien, tu as l'Esprit de Dieu. Si par l'Esprit vous faites mourir les agissements du corps, vous vivrez. Bonne nouvelle. Dans sa lutte contre la chair, le chrétien n'est pas seul. Mais concrètement, comment faire ? Comment je fais mourir les agissements du corps par l'esprit ? Comment faire pour que ça soit autre chose que ce que des millions de gens vivent chaque année avec leurs résolutions qui partent en fumée ? Mes pulsions sont fortes, c'est vrai. Ma chair remue fort bien. Comment faire ? Eh bien, Romains 8, verset 5, nous donne une clé. En effet, ceux qui vivent selon la chair sont préoccupés par les choses de la chair, alors que ceux qui vivent selon l'esprit le sont par celles de l'esprit. Mais que sont les choses de l'esprit ? Qu'est-ce qu'il veut l'esprit ? Eh bien, il désire ce qu'il a fait écrire aux apôtres. Je sais ce que désire l'esprit quand je contemple la parole qu'il a fait écrire. Et quand vous pensez à l'amour du chrétien, Éphésiens 6, Jean-Noël nous en a parlé quelque temps. Quelle est l'arme du soldat ? C'est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est avec cette épée-là que je dois tuer. Cette épée à la main que je dois devenir un homme violent, une femme violente. C'est avec cette épée que je tue le péché, que je dois être violent, que je dois mettre à mort la chair. Avec la parole de Dieu, c'est avec elle que nous faisons mourir les agissements du corps, par l'esprit. Donc quand vous ouvrez la Bible, l'esprit prend son épée et s'attaque au péché. Comment ça se passe ? Eh bien la chose à faire, l'acte de guerre, de base, c'est d'écouter. Écouter la parole de Dieu, qui résonne du haut de la chair tous les dimanches, mais aussi dans les petits groupes en semaine. Face à face, quand je discute avec des amis, tous les jours, quand je la lis, écoute. Comme si ta vie et ton âme en dépendaient. Et vous savez quoi ? Elles en dépendent. Alors écoute et laisse l'Esprit de Dieu attaquer le péché en toi. Implore son instruction et son aide. Et tu le suis. Tu te battras jusqu'au bout jusqu'à ce que, à ce jour glorieux où ce bateau dont j'ai parlé, qui craque et qui gémit dans cette mer déchaînée, cette mer de méchanceté, jusqu'à ce que ce bateau te ramène à bon port dans la gloire. Alors qu'est-ce que je fais? Je me bats, je m'exerce, je demande à l'Esprit de mettre à mort le péché en moi. Galates 6, versets 7 et 8, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, c'est aussi ce qu'il récoltera. Celui qui sème pour sa propre chair en récoltera la corruption, mais celui qui sème pour l'Esprit en récoltera la vie éternelle. » Écoute l'Esprit, exerce-toi, bats-toi, lutte de toutes tes forces, ne sois pas naïf, ne cherche pas à cacher ton péché, à le mettre sous le tapis. Sachez que votre péché vous retrouvera, dit Moïse. Bats-toi, allez, fuis-le s'il le faut, mais ne cède plus. Si tu cèdes, sache qu'il te retrouvera. Parfois, ce combat peut devenir excessivement rude. Récemment, un ami m'a raconté ce qu'il a vécu, une tentation qui a failli le faire tomber. Et il était sur le point, a-t-il dit, de tomber, sur le point de déshonorer Dieu. Il sentait que sa force le quittait, qu'il allait craquer. Alors il a cherché un endroit pour parler avec Dieu. Il a trouvé une cathédrale ouverte. Il s'y est assis. Il m'a dit, au milieu de touristes qui voulaient prendre de belles photos, et il a crié à Dieu, silencieusement. Et savez-vous ce qu'il lui a demandé? À chaque fois que j'y pense, ça me fait des frissons. Il lui a demandé de lui ôter la vie. Il lui a dit, je sais que je vais tomber, mais je ne veux pas déshonorer ton nom. Ôte-moi la vie avant que je le fasse. Et il m'a dit qu'il était convaincu qu'il allait tomber raide à l'instant qui suivait. C'est rude. Mais ce jour-là, il n'est pas mort. Mais quelque chose a changé. Et il m'a dit, quand il a quitté cette cathédrale, il a senti qu'il avait franchi le sommet de la tentation. Le charme était rompu. Elle était encore là, mais il savait qu'il y avait le dessus, qu'elle n'allait pas la voir. Elle ne l'a pas eu. Dieu a honoré ce lutteur qui avait offert sa vie plutôt que de flancher. Notre lutte n'atteindra pas toujours cette intensité. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Mais elle doit être constante, sérieuse et sans compromis. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour passer dès le terrain. Et notre comportement est suivi en haut lieu, croyez-moi. Car les chemins de l'homme sont devant les yeux du Seigneur. Il observe tous ses sentiers, disent les proverbes. Il observe tous tes sentiers. Il a les yeux fixés sur toi. Alors bon sang, bats-toi. Ma prière pour vous et pour moi, vous l'avez compris, c'est que nous devenions des gens violents, que nous mettions à mort la chair, et qu'en le faisant, nous devenions capables d'amour chrétien pour les autres, de servir les autres, parce que nous ne servirons plus la chair. Le diable ne nous mènera plus en laisse. Nous sommes libres de se le servir. Mais uniquement si nous commençons à tuer, sans pitié. Est-ce que tu veux tuer? Est-ce que tu veux tuer le péché? En Autriche, quand j'étais un gamin, on nous a appris une prière d'enfant. À première vue, elle peut paraître bien niaise. Plus je vieillis, et plus je comprends à quel point elle est profonde et juste. Elle dit, « Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. » ce qui se peut traduire par « Mon Dieu, fais de moi quelqu'un de pieux pour que je puisse aller au ciel. » En effet, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Prions. En effet, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les agissements du corps, vous vivrez. Père céleste, je te supplie, par ton esprit, fais de nous des hommes et des femmes violents. Fais de nous des combattants, des tueurs de la chair, des assassins du péché, afin que nous puissions vivre. Amen.